Aujourd'hui, dans le cœur du diocèse, c'est Mgr Brouvet, interrogé par Laurence, délégué à la communication du diocèse, qui nous parle de la loi sur la fin de vie.
Bonjour Mgr Nicolas, aujourd'hui nous allons échanger sur le thème délicat de la fin de vie. Alors en tant qu'évêque de Nîmes, vous êtes particulièrement sensible à cette question. Vous avez notamment édité un livret spécifique sur la fin de vie, toutes les questions fondamentales qu'elle suscite, un livret qu'on peut retrouver sur le site internet du diocèse. Alors en l'état, il y a un projet de loi qui est présenté et qui comporte trois volets. Le premier vise à développer les soins palliatifs, le deuxième à renforcer le droit des patients et le troisième, de loin le plus sensible, à légaliser l'acte à mourir. Alors, pouvez-vous nous parler de ce projet de loi qui suscite de nombreux remous au Sénat, un calendrier qui ne cesse d'être reporté, initialement en décembre, puis en février, on parle aujourd'hui de juin prochain. Pouvez-vous nous donner les questions fondamentales qu'elle suscite ?
Oui, bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Je suis content de venir parler de ce sujet qui est en fait un sujet d'actualité. Si je m'y intéresse, c'est parce que c'est justement un sujet d'actualité. Qui est débattu et, comme vous le dites, qui est reporté sans cesse parce qu'il y a évidemment une sorte de résistance à ce projet. Alors d'abord, je remarque et je salue qu'un des volets du projet, ça soit le développement des soins palliatifs. Nous, évidemment, nous encourageons le développement de ces soins palliatifs. Je rappelle que ces soins, ils ont été décidés par la loi Leonetti, par la loi Claeys-Leonetti, ça fait presque 20 ans, et qu'il y a encore 26 départements en France qui sont sans unité de soins palliatifs. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une loi qui a été votée et qui n'a pas été mise en œuvre.
Qui peut appliquer.
Ça, je crois que c'est quand même la grande question qu'il faut se poser. Comment ça se fait que lorsque des parlementaires ont voté une loi, 20 ans après, il y a des départements où la loi n'est pas mise en œuvre. Alors, les soins palliatifs, vous savez, ça vient du mot pallium. Pallium, c'était un manteau dans l'Antiquité, une sorte de manteau qu'on mettait pour se protéger, parce que à un moment où les soins médicaux sont devenus inutiles, en fin de vie, on va pas guérir la personne, mais les soins palliatifs, c'est un accompagnement de la personne. Et qui vise à soulager la douleur physique, mais aussi à prendre en compte la souffrance psychologique, sociale, spirituelle. C'est une thérapie de la douleur dans son ensemble. Et la personne est accompagnée. Et le propre des soins palliatifs, c'est d'accompagner non seulement la personne malade, mais aussi son entourage. Mmh. C'est d'être là avec elle. Vous savez que l'acharnement thérapeutique est illégal en France. Alors parfois, on dit, mais moi je veux pas que mon père, ma mère, qu'on s'acharne à vouloir la maintenir en vie. L'acharnement est illégal. Ouais. Donc les soins palliatifs, c'est pas du tout ça. C'est un accompagnement. Et je crois que le but de cette loi, disons le premier volet, comme vous l'avez dit, c'est d'étendre ces soins palliatifs. Et je pense que, d'ailleurs, le projet devrait s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord de cet accompagnement des personnes.
Est-ce que, selon vous, on n'a pas un peu le sentiment qu'on meurt mal en France ?
Oui, c'est ça qui suscite, justement, cette loi à l'aide active à mourir. Vous voyez, la difficulté, c'est que parfois, on voudrait une mort tardive, subite et sans souffrance. Et c'est ça qui a motivé le désir de choisir sa mort. Il y a un argument qui est arrivé assez tard dans le débat, parce qu'il y a encore quelques années, le Comité national d'éthique refusait l'idée même de l'euthanasie ou du suicide assisté. Un argument qui est arrivé, c'est de dire au fond, on est autonome et dans notre autonomie, eh bien, on peut aussi choisir sa manière de mourir. Et donc, il y a une sorte de débat entre, disons, une culture de la solidarité, comme je viens de l'expliquer avec les soins palliatifs, où on est là avec les personnes, on les accompagne, on est avec elles, on est proche, on montre une présence. Ce sont les soins palliatifs. Évidemment, on hydrate la personne, on essaie de lui donner tout le confort possible pour l'accompagner dans la mort. Et puis on prend du temps avec elle. Et on montre à cette personne qu'elle est importante pour nous, qu'elle est importante à nos yeux, qu'on a du temps pour elle et que sa vie a du prix à nos yeux. Voilà. Et donc, à côté de ça, à côté de cette solidarité, il y a un autre... courant culturel, alors on dit qu'il vient plutôt de la sphère anglo-saxonne, qui est plutôt de mettre en avant la sphère de l'autonomie. Je choisis ma manière de mourir, ça n'appartient à personne d'autre, et donc je veux qu'on me donne la possibilité, justement, de choisir ma mort, et donc de passer à une aide active à mourir, que ça soit dans le suicide assisté ou bien dans l'euthanasie. La différence, le suicide assisté, c'est que c'est la personne elle-même qui prend des médicaments, enfin des médicaments, oui. Plutôt des pilules, disons. Oui. Et puis l'euthanasie, c'est le personnel médical qui est acteur. Le problème, vous voyez, c'est qu'il y a une vraie contradiction entre la demande de suicide assisté ou d'euthanasie et la politique publique de suicide. Vous savez qu'en France, en ce moment, il y a 10 000 suicides par an. Et 200 000 tentatives de suicide. Ça veut dire 25 décès pour 700 tentatives quotidiennes de suicide. C'est énorme. Et l'État français a une vraie politique de prévention du suicide. Comment est-ce qu'on peut éviter que des gens se donnent la mort ? Et vous voyez, proposer le suicide assisté, c'est vraiment en contradiction flagrante avec cette politique publique. Il y a une autre question que je me pose, vous voyez, c'est de dire jusqu'à quel point une personne qui demande l'aide active à mourir est-elle libre de le faire ? Il y a parfois, il peut y avoir un sentiment de ne plus être utile, de peser sur l'entourage, un sentiment de coûter à la société, c'est terrible. Quand on en arrive, vous voyez, à penser cela, vous voyez, en proposant l'aide active à mourir, eh bien, on cultive l'abandon, c'est une culture de l'abandon et du désespoir. C'est-à-dire que ce qui devient premier, c'est cette culture de coût-bénéfice qui est la culture d'une société de consommation. Et alors que dans les soins palliatifs, on abandonne, vous voyez, ce regard, cet horizon du coût-bénéfice en disant « mais non, tu es là, nous sommes avec toi et ta vie a de l'importance jusqu'au dernier souffle ». Alors on apaise la douleur, même si... En apaisant la douleur, on accélère la mort. Mais ça, on a toujours dit, vous voyez, que c'était éthiquement et moralement permis de dire, parfois, en apaisant la douleur, on va accélérer la mort. Mais on ne touche pas à la vie. Ouais. C'est-à-dire que la personne s'éteint par elle-même, si je puis dire.
La vie est précieuse.
La vie est précieuse. Ouais. Et donc, la bonne réponse, c'est vraiment un accompagnement, une présence, un surcroît de fraternité. Les évêques de France, le président de la conférence des évêques a parlé d'une aide active à vivre. Ça, c'était beau comme réponse, plutôt qu'une aide active à mourir. Un surcroît de fraternité, ça veut dire on est là, on est présent. Et on ne maîtrise pas ce qui va se passer, mais on respecte. Voilà, on respecte ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Et tu nous importes tellement qu'on est là avec toi.
C'est pour ça que l'accompagnement et l'entourage est fondamental, est important.
Exactement.
Et il y a beaucoup de personnes aussi qui meurent seules. C'est terrible. Et du coup, c'est cet accompagnement, sortir aussi de la culpabilité, d'être une charge pour sa famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Et peut-être aussi que dans nos paroisses, accompagner aussi ceux qui sont loin de leur famille, c'est fondamental. Alors, au fond, que peut-on aujourd'hui répondre à ceux qui sont en faveur de ce projet de loi ?
D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui soient vraiment en faveur de ce projet de loi. Par exemple... la grande majorité, la quasi-totalité des soignants est opposée à ce genre de loi, parce que l'aide active à mourir n'est pas un soin. Un soignant, c'est celui qui prodigue des soins. L'aide active à mourir, c'est plutôt une défaite. Et la lettre du serment d'Hippocrate, qui est attesté pour tous les médecins, par tous les médecins lorsqu'ils deviennent médecins, c'est justement de protéger la vie humaine, de venir en aide à celui qui va mourir. Alors encore une fois, on n'est pas dans l'acharnement thérapeutique, mais on n'est pas là non plus, et le personnel soignant n'est pas là pour donner la mort. Parce qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom. Moi, je constate qu'on veut écarter la terminologie de donner la mort, du suicide assisté. Alors, on parle d'aide active à mourir pour être le plus positif possible. Mais on est, comme souvent d'ailleurs, en train de changer les termes pour que les choses apparaissent sous leur meilleur jour. Mais on ne peut pas changer le vocabulaire en pensant que ça va transformer la réalité. La réalité, c'est qu'on veut donner la mort. Et donc, ce qu'il y a au fond de cela, c'est la remise en cause de l'interdit de tuer. Or, l'interdit de tuer, il est fondateur dans notre société. C'est parce qu'il y a quelques éléments fondateurs d'une société dans lesquelles nous vivons, et l'interdit de tuer fait partie de ces interdits. Et là, avec... l'aide active à mourir, eh bien, on va suggérer que cet interdit n'est plus un absolu, n'est plus une frontière à ne jamais franchir. Et donc, on va ouvrir une porte qu'on ne saura plus fermer. Parce que, vous voyez, on en parle en termes médicaux, mais pour le reste de la vie sociale, dès qu'on aura entrouvert la porte en disant, bah, au fond, la vie peut être reprise si des circonstances exigent, ça, c'est terrible.
C'est-à-dire qu'on ouvre la porte un peu très largement à... Voilà, à des cas qu'on ne pourrait plus maîtriser.
C'est-à-dire voilà, alors que... c'est ça la question. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire en permettant qu'en fin de vie, finalement, on abrège la vie d'un patient, on se donne le droit de tuer. Vous savez, Robert Badinter, c'est lui qui a vraiment milité pour l'abolition de la peine de mort, et il disait « Dans une démocratie, on ne donne pas la mort voilà. ». Et je crois que c'est une phrase... Vous voyez, dont il faut se souvenir. Dans une démocratie, on ne donne pas la mort. On protège la vie. On respecte la vie. On respecte la dignité de la personne jusqu'au bout. Que ça soit dans toutes les circonstances de l'existence, la personne est respectée dans ce qu'elle est.
Merci, Monseigneur. Merci.
Merci à vous, Laurence. Merci aux auditeurs.
Nous venons d'entendre Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Nîmes, qui nous parlait du projet de loi sur la fin de vie.